Interlude est une danse espagnole tirée du drame lyrique La Vida Breve de Manuel de Falla. Kazuki Yamada a les directions de l'orchestre de la Suisse romande. Et quand on parle de la courtesse de la vie, eh bien forcément on pense à la maladie de notre cher Julian Sykes. Bonsoir Julian.
La maladie
ben oui,
de
vous
votre...
étiez, oui, oui, vous étiez malade, vous aviez la crève, ça va mieux?
Mais j'ai encore un peu la crève.
Vous vous rendez compte que j'ai des auditeurs et des auditrices qui m'appellent en permanence pour me demander des nouvelles de vous?
Oui, oui. Qu'est-ce que c'est gentil de leur part? Qu'est-ce que je suis ému?
Mais parce qu'on ne sait pas comment vous contacter, c'est quoi votre adresse?
Ah non, non, non. Rien.
Comment ça, rien?
Blanc. Joker.
Je comprends
non, non,
pas.
Mais là, vous détournez l'attention, là. Parlons du programme musical, parce qu'en fait, vous n'avez rien à dire sur le prochain morceau. Donc vous cherchez à détourner l'attention, comme toujours avec vous.
Vous êtes d'une pédanterie.
Non, je ne suis pas pédant. Je suis tout simplement pragmatique.
Ne vous touchez pas trop le nez. Vous savez qu'il y a plein de microbes là-bas dedans. Nous allons écouter la sixième partie d'une suite de ballet tirée du Cid de Jules Massenet. Le Cid, ce chevalier.
Oui. Bah, vous êtes très fort pour raconter les histoires.
Alors le Cid. Le Cid, à ne pas confondre, et ça, il faut le dire quand même, parce que certaines personnes ont tout à coup un peu honte de ne pas connaître ces histoires médiévales. Cid n'a rien à voir avec le paresseux du film de divertissement Pixar, L'Âge de Glace.
Ah oui, je vois ça.
Vous connaissez
vous
Cid?
Oui, oui, tout à fait, oui.
Ça n'est pas ce
J'adore
Cid-là.
Ça.
Et pourtant, cette madrilène, un peu lente et mélancolique, pourrait tout à fait correspondre au tempérament, je dirais, placide du paresseux. Vous connaissez bien cet animal, Julian?
Oui, bien sûr.
C'est un peu votre totem.
Oui, j'adore.
Oui. Alors nous allons entendre cette sixième partie du Cid avec, figurez-vous comme interprète, l'orchestre Les Siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Il dirigeait encore.
Un chef interdit.
Ah, c'est
enfin, sauf à Cologne.
Il l'a engagé?
Je crois qu'à Cologne, ils l'ont retenu. Ouais.
Vous savez qu'en Allemagne...
Il continue à se produire en Allemagne parce qu'il y a même eu, en fait... Je sais pas, un avis par des juges, enfin quelque chose où...
Ils ont
voilà,
vu les photos
Hein?
Ils ont vu les photos?
Ah, ça, je sais pas.
Ils ont dit que c'était, ça passait?
Oui, c'est
bon,
ça.
Vous savez...
On pourrait dire ça, oui.
L'allemand est assez tolérant.
Oui, puis l'allemand a besoin de preuves.
Est-ce que des photos constituent des preuves suffisantes pour...
Bah, écoutez, terrain glissant, voilà.
Nous allons donc écouter... La madrilène, un peu lente et mélancolique, suivie d'une partie plus animée.
En fait, cette musique, vous l'avez choisie pour la séquence hispanisante.
Et vous savez tout des procédés de programmation de cette émission.
Moi, je sais comment vous programmez, vous.
Alors, dites tout.
Vous faites par nationalité, par pays, par climat, par atmosphère, par couleur. Et là, nous étions dans la vie brève de Manuel de Falla et on continue avec un madrilène. C'est quand même extraordinaire.
C'est pas sympa de vous foutre de moi comme ça.
Non, non, mais je sais, tout est pensé dans votre programmation, c'est quand même admirable.
Je vous écoute aussi à 22h, sachez-le, et je trouve certains mérites à votre programmation, Julien. Merci beaucoup.
Thank you.
C'est une musique qui a besoin de s'échauffer un peu pour se réveiller. Le sixième numéro qui constitue le sixième mouvement, c'est un pléonasme que j'aimerais partager avec vous ce soir, de la suite de ballet du Cid de Jules Massenet, Les siècles, dirigé par François-Xavier Roth. Auprès d'un torrent, Ophélie cueillait, tout en suivant le bord dans sa douce et tendre folie, des pervenches, des boutons d'or, des iris aux couleurs d'opale et de ces fleurs d'un rose pâle qu'on appelle des doigts de mort. Voici un air extraordinaire, composé par Hector Berlioz, qui met en son la mort d'Ophélie. Mais c'est pas ça.
Ben, j'attendais la voix de Sabine.
C'est pas
de
ça.
Vielle, parce que j'adore cette voix.
Ben, c'est pas ça.
Comment ça, c'est pas ça?
Là, c'est Schumann.
Mais ça commençait, on pouvait se dire que ça pouvait être ça.
Mais non, parce que ça fait tout. Auprès d'un temps, c'est pas ça.
Il est là,
Berlioz. C'est à cause de vous, Julianne.
Comment ça, c'est à cause
mais
de moi?
Vous savez que les ordinateurs ne vous aiment pas.
Moi?
Oui, vous savez que vous faites calancher.
Dès que je fais irruption dans un studio, c'est vrai
tout
que tout flanche.
Bah, regardez déjà le combiné téléphonique, là. Il a fallu le remplacer à cause de vous.
Ah ouais? Ouais. Enfin, vous avez quand même pu parler avec vos chers auditeurs.
Mais
et
bien
auditrices.
Sûr. Ça a été.
Est-ce que vous avez eu ce soir votre Marie-Christine?
Ce soir, non. Alors, on a eu un Christian ce soir qui a brillamment remporté son adaptateur DAB+. Oui.
C'est vrai?
Vous n'avez
et
pas.
Et tous ces gens vont installer les DAB+ dans les voitures? Parce que moi, chez mon adaptateur DAB+,
ah oui, c'est vrai.
Mais j'ai peur de foutre en l'air la carlingue dans la voiture. Je n'ai pas encore osé, parce qu'il faut que je le mette dans la voiture. Et j'ai vu un mode d'emploi.
Bon, écoutez, Julianne.
Non, mais il faut tirer une partie en plastique pour pouvoir introduire les câbles. Et puis ensuite, il faut remettre la partie en plastique. Mais comme ça fait depuis 13 ans que j'ai ma voiture, si j'enlève la partie, je ne vais jamais pouvoir la remettre. Non, franchement, cette histoire de DAB+, on aura pu s'en passer.
Julianne, il me semble que vous êtes en orbite autour d'une planète inconnue.
Oui.
Bazar, le best-of.
Antoine Tamestit à l'alto, dans une lecture vivifiante et vive du quatrième mouvement d'un concerto pour alto, cordes et basses continues en sol majeur de Georg-Philippe Telemann. Il y avait au violon Bernhard Fork pour mener les musiciennes et musiciens de l'Académie de musique ancienne de Berlin. Nous restons dans de la musique galande, un peu plus loin que Telemann, un peu plus proche de nous, avec un très bel adagio qui constitue le deuxième mouvement d'une œuvre de Johann Stamitz. C'est de la flûte, oui, c'est de la flûte galante donc, avec ce sens de la mélodie qu'avait Johann Stamitz.
Thank you.
Nous avons entendu à l'instant du Stamitz, mais alors lequel? Ben c'était Johann Stamitz, l'adagio de son concerto pour flûte et orchestre en ré majeur. Philippe Bernhold à la direction de l'orchestre de chambre de Paris pour accompagner Philippe Pierlot à la flûte. Bonsoir Julian Sykes.
Bonsoir Sébastien.
Je ne vous demande pas comment vous allez.
Pas extraordinaire.
Ben,
je traîne une crève et tout, je tousse à la manière d'un fumeur.
Mais fumer.
Enfin ici, mais là, pendant les 30 secondes que je vais parler, je vais pas tousser comme ça, mais
hors
micro, voilà.
Moi, je.
Non, mais ça va. Mais à part ça,
Stamitz, ça vous évoque, ça vous parle, vous qui êtes vous êtes galant.
Vous trouvez que je suis galant?
Vous avez une forme de galanterie.
Vous venez de dire que je suis flagorneur, c'est pas tout à fait la même chose.
Ah bah,
nuance.
Alors nuancé, je vous écoute.
Bon, vous avez dit Johann Stamitz. Mais c'est pas Johann Karl Stamitz.
C'est son père de Karl Philipp Stamitz.
Non, mais Karl, c'est pas le deuxième nom de Johann. Parce qu'à l'époque, ils avaient toujours deux ou trois noms.
Alors Stamitz, non. Karl s'appelle Karl Philipp Stamitz. Johann Stamitz s'appelle Johann Wenzel Anton.
Ils se ressemblent tous. Enfin, cette musique, excusez-moi, je veux dire, c'est très bien conçu comme musique, mais toutes ces musiques de Stamitz, que ce soit l'oncle, le neveu, le petit cousin germain, le fils, toute cette musique se ressemble. C'est l'école de Mannheim.
Oui, ouais. Exactement.
Et là, vous êtes en train de feuilleter votre dictionnaire pour essayer d'avoir de quoi...
pas du tout.
Quelques biscuits à revendre.
Tout est prêt.
Sur ce sujet que vous connaissez fort mal.
Mais pas du tout. Vous plaisantez, l'école de Mannheim, c'est mon école de cœur.
Ah oui, c'est ça.
Mais nous allons la quitter, malheureusement, pour du Mozart.
Avec
du Mozart.
Pirouette.
Ah, du Mozart fin 1770. Nous nous quittons sur les premières mesures de la symphonie concertante en mi bémol majeur pour quatre vents et orchestre de Wolfgang Amadeus Mozart. Le best-of de Bazar, c'est tous les samedis à 17h30. On vous souhaite de passer une excellente soirée et un dimanche tout aussi bien. Vous écoutez RTS Espace 2, il est 19h30.
Concert du soir, Sérène Regard.
Bonsoir, bienvenue et bonne année sur les ondes de la radio-télévision suisse Espace 2 dans le cadre d'Alepera. C'est un grand plaisir de partager avec vous un nouveau moment lyrique avec ce soir l'un des chefs-d'œuvre de Giuseppe Verdi, La force du destin. Violence, pathétisme et héroïsme. Eh bien oui, il y a forcément un peu de tout cela dans la littérature espagnole. Et Giuseppe Verdi l'a très bien compris. Son œuvre traduit à plusieurs reprises ses trois passions. Vous pouvez regarder du côté d'Hernani. Vous pouvez lire le texte du Trouvère. Vous y trouverez évidemment des références au monde espagnol. Don Carlo, également un des autres grands opéras de Verdi, met en scène la péninsule tout à fait austère du règne de Philippe II. Eh bien, cette Espagne du drame, c'est aussi celle de ce soir avec La force du destin. Les trois coups du destin et un motif musical récurrent pour annoncer bien évidemment l'impossibilité de s'extraire de ce qui est prévu, de ce qui est dessiné. Eh bien oui, c'est cela que nous propose Giuseppe Verdi à travers son orchestre somptueux. Trois coups qui lance sans doute l'une des plus belles et des plus fameuses ouvertures de l'histoire de l'opéra. Alors Verdi annonce toujours son drame dans un art symphonique sans détour. L'ouverture verdienne, ici, elle est plus que traditionnelle, c'est-à-dire qu'elle ne se contente pas de résumer le drame, c'est véritablement un miroir de l'âme humaine. Alors le reflet de ce soir est celui de la vengeance dans la main du destin. Et la première victime, eh bien c'est une femme, Léonore. C'est la fille du marquis de Calatrava. Elle est amoureuse de Don Alvaro avec lequel elle projette de s'enfuir. Seulement au moment de partir, les deux amants sont surpris par la brusque arrivée du père et en jetant son pistolet à terre pour se rendre, eh bien Don Alvaro tue accidentellement le marquis qui meurt en maudissant sa fille. Alors ça c'est le drame initial, c'est lui qui enclenche véritablement ce que j'appellerais l'implacable mécanique du destin. S'ensuit un deuxième acte qui s'ouvre dans une auberge, on y retrouve Léonore et également son frère Carlo qui est dissimulé parmi la foule. Carlo qui s'est lancé à la poursuite de sa sœur et de son amant Don Alvaro pour venger bien évidemment la mort de son père, le marquis de Calatrava. Et dans la fuite, Léonore et Don Alvaro ont été séparés. Alors Léonore se croit désormais abandonnée. Elle va donc trouver refuge auprès du père gardien, figure religieuse d'un couvent isolé. Voilà de quoi il est question donc pour la première partie de cette force du destin de Giuseppe Verdi, un des grands chefs-d'œuvre de l'art lyrique. Et ce soir, j'ai le plaisir de vous proposer l'écoute d'une production qui a ouvert la nouvelle saison de La Scala. C'était au soir du 7 décembre dernier, c'est un événement toujours très attendu. Et pour l'occasion, dans le rôle de Léonore, eh bien Milan recevait Anna Netrebko et son timbre de soprano. À ses côtés, il y a le ténor Brian Yagde dans le rôle de Don Alvaro et le baryton français Ludovic Tézier qui incarne Don Carlo de Vargas. Autour de ces trois voix essentielles viennent se greffer les voix de Fabrizio Beggi dans le rôle du marquis de Calatrava, celle de Vassilissa Berzanskaya pour le rôle de Preziosilla et puis c'est Alexander Vinogradov qui chante la grande figure religieuse du père gardien. Il y a également Marco Filippo Romano qui incarne le seul rôle comique de cet opéra, frère Melitone. C'est Marcella Rahl qui est Cura et Wang Li, un juge. Sans oublier Carlo Bossi et Chieldo Yiseni pour les rôles du maître Trabucco et du chirurgien. Voilà donc notre plateau lyrique défini. On va lui adjoindre bien évidemment le concours du chœur et du théâtre de la Scala de Milan avec la baguette sur le podium depuis de nombreuses années maintenant. Lorsque l'on évoque ce temple de l'art lyrique, c'est celle de Riccardo Chailly. Je vous propose de vous installer à présent confortablement, de vous laisser aller dans cette grande musique verdienne. Voici les deux premiers actes de La Force du Destin.
Si triste.
Padre, signor.
La pura ora Tutto comprendo, signora. Io so, saprò soffrire, tolga in Dio che passi miei per debolezza segua. Sciolgo i tuoi giorni, le nozioni tere sarebbero per noi segnali morti. Se tu com'io non m'ami, se tu com'io non m'ami, se penti.
Padre!
Ti maledico!
Ce l'ho visto!
cena è pronta.
La cena, la cena.
Ricerco in man la suola e seduttone. Perfidi!
Voi la mensa benedite.
Può farlo il licenziato.
Di buon grado.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen. Credo, mio fratello!
Buono, eccella in me!
Guardia, mangiami!
Tu la segui sacumbere di
lo spoi il latino ma cucina bene
e viva la stessa
evviva
non vieni mastro trabuco
è venerdì
ti giuro
appunto
e quella personcina con lei giunta
e così
va
Che brava for fortuna!
Tutti vogliamo!
Corretta l'orso d'Italia! Brotta la guerra contro il tedesco!
Serva sì.